Chapitre 32. Deux tribus et demie au levant du Jourdain. Manque de foi et d'énergie. Que faut-il penser des deux tribus et demie qui choisirent leur héritage sur la rive du Jourdain attenante au désert? Le pays que l'Éternel avait promis à Israël, l'héritage qu'il leur avait réservé, était sans aucun doute de l'autre côté du Jourdain, dans la terre de Canaan. Un cœur sincère, un cœur qui aurait pensé, senti et jugé avec Dieu, n'aurait pu nourrir l'idée de choisir une part autre que celle que Dieu avait assignée. C'était une faute et un manque de foi de la part de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé que de choisir leur lieu d'habitation en deçà du Jourdain. Leur conduite était gouvernée par les considérations purement terrestres, par la vue de leurs yeux. Ils virent le pays de Jazer et le pays de Galaad, et ils l'apprécièrent selon leurs propres intérêts, sans aucun égard au jugement et à la volonté de Dieu. S'ils avaient simplement regardé à Dieu, la question de s'établir en deçà des rives du Jourdain n'aurait jamais été soulevée. Lorsque nous ne sommes pas simples et sincères, nous entrons dans des circonstances qui soulèvent toutes sortes de questions. Il est très important de suivre une ligne de conduite sans équivoque, de façon qu'aucune complication ne puisse surgir. Le secret pour agir ainsi, c'est de marcher avec Dieu et d'avoir notre conduite absolument réglée par sa parole. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé n'étaient pas ainsi conduits, cela est manifeste par leur histoire entière. C'étaient des hommes au cœur partagé, aux principes mélangés, des hommes qui cherchaient leurs propres intérêts et qui étaient peu attachés aux promesses de Dieu. Si ces dernières avaient rempli leur cœur, rien n'aurait pu les conduire à prendre leur position hors des vraies limites. Il est évident que Moïse n'avait aucune sympathie pour leur proposition. Le jugement de l'Éternel ne lui permettait pas de traverser le Jourdain, mais son cœur était dans la terre promise. Comment donc aurait-il pu approuver la conduite d'hommes désireux de s'établir ailleurs? La foi ne peut se satisfaire de ce qui n'est pas la vraie position et les vrais privilèges du peuple de Dieu. Un œil simple ne peut voir autre chose que l'héritage donné par Dieu, et un cœur fidèle ne peut désirer autre chose. Voilà pourquoi Moïse condamna sur-le-champ la proposition de Ruben et de Gad. Il est vrai qu'ensuite il donna son consentement. Leur promesse de traverser le Jourdain, tout armé, devant leurs frères, obtint de Moïse une sorte d'assentiment. Mais ce n'était pas une manifestation de désintéressement et d'énergie que de laisser derrière eux tous les leurs et de ne traverser le Jourdain que pour combattre en faveur de leurs frères. Ils laissaient leurs femmes et leurs enfants en dehors des bornes marquées par Dieu. Il les privait d'une place et d'une part dans le véritable pays de la promesse, cet héritage dont Dieu avait parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et pourquoi? Seulement à cause de leur bétail. Conséquences ultérieures. Au chapitre 22 de Josué, nous avons le premier triste effet de la conduite équivoque des deux tribus et demie. Ils se sentent obligés de bâtir un autel. Un autel de grande apparence, de peur qu'à l'avenir leurs frères ne les renient. Cela montre qu'ils eurent grandement tort de s'établir en deçà du Jourdain. Et remarquez l'effet produit sur toute l'assemblée par cet autel. Et les fils d'Israël l'ayant appris, toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo pour monter en bataille contre eux. Et les fils d'Israël envoyèrent vers les fils de Ruben et vers les fils de Gad et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et avec lui 10 princes, un prince par maison de père, de toutes les tribus d'Israël. Et chacun d'eux était chef de maison de père des milliers d'Israël. Et ils vinrent vers les fils de Ruben et vers les fils de Gad et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils parlèrent, disant « Ainsi dit toute l'assemblée de l'Éternel. Quel est ce crime que vous avez commis contre le Dieu d'Israël, vous détournant aujourd'hui de l'Éternel en vous bâtissant un autel, vous rebellant aujourd'hui contre l'Éternel? Est-ce peu de chose que l'iniquité de Péor, dont nous ne nous sommes pas purifiés jusqu'à aujourd'hui, quoiqu'il y ait une plaie sur l'assemblée de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Or, il arrivera, si vous vous rebellez aujourd'hui contre l'Éternel, que demain il sera courroucé contre toute l'assemblée d'Israël. Si toutefois le pays de votre possession est impur, passez dans le pays qui est la possession de l'Éternel, où est le tabernacle de l'Éternel, et ayez votre possession au milieu de nous. Mais ne vous rebellez pas contre l'Éternel, et ne vous rebellez pas contre nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Versets 12 à 19. Or, toute cette grave mésentente, tout ce trouble et toute cette alarme étaient le résultat de la faute des deux tribus et demie. Il est vrai qu'elles peuvent s'expliquer et satisfaire leurs frères au sujet de l'autel, mais il n'y aurait eu aucune alarme si elles n'avaient pas pris une position équivoque. Là était la source de tout le mal, et il est important de saisir ce point avec clarté et d'en déduire la grande leçon pratique qu'il doit nous enseigner. Il est hors de doute que les deux tribus et demie ont eu tort de s'arrêter avant d'arriver au Jourdain et d'y établir leur demeure. Si d'autres preuves étaient nécessaires, elles seraient fournies par le fait que ces tribus furent les premières à tomber entre les mains de l'ennemi. 1 Roi 22, verset 3. Cet épisode de l'histoire d'Israël nous avertit bien solennellement de veiller constamment à ne pas rester en dessous de notre vraie position de chrétien en nous contentant des choses qui appartiennent à ce monde. Que Dieu nous donne de prendre la position spirituelle de mort et de résurrection avec Christ, telle qu'elle est figurée par la traversée du Jourdain. Les chrétiens qui ne voient pas l'appel céleste de l'Église, qui ne saisissent pas le caractère particulier de la vérité enseignée dans l'Épître aux Éphésiens, même s'ils sont zélés et dévoués en proportion de leur lumière, perdent une immense bénédiction pour leurs âmes et restent bien en dessous du vrai témoignage chrétien. C'est un grand point d'être entièrement décidé et non partagé de cœur en nous déclarant pour Christ. Ceux qui professent être chrétiens, tout en reniant leur appel et leur caractère céleste, ou en agissant comme s'ils étaient citoyens de ce monde, font un tort considérable à la cause de Dieu et au témoignage de Christ. Ils deviennent des instruments dont Satan s'est tiré parti. Les chrétiens professants, qui sont simplement habitants de la frontière entre le monde et le terrain chrétien, sont ceux qui font le plus de tort à la cause de Christ et qui favorisent le plus les desseins de l'ennemi. Notre Dieu veut des hommes d'un cœur intègre, de sincères et courageux témoins de Jésus-Christ, chez lesquels tout démontre qu'ils cherchent une meilleure patrie. Chers lecteurs chrétiens, prenons garde à ces choses. Jugeons-nous loyalement devant Dieu et jetons loin de nous tout ce qui tend à empêcher notre complet dévouement de cœur, d'âme et de corps à celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Conduisons-nous de telle façon qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un autel de grande apparence pour montrer à quel pays nous appartenons, où nous adorons, à qui nous sommes et qui nous servons.